Bonjour et bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on tourne autour du mot « feu ». Et quand on faisait une tempête d'idées, un brainstorm pour bien parler sur le mot « feu », on s'est rapidement rendu compte que on savait pas exactement ce que c'était du feu. C'est une flamme, c'est de la lumière qui fait de la chaleur, c'est un objet qui devient de la cendre, mais le processus qui fait que l'objet devient de la cendre, ça nous échappait complètement. Nos cours de sciences de secondaire 3, 4, 5 étaient visiblement très loin. Alors on s'est dit, on peut pas faire toute une émission sur le mot feu sans même savoir de quoi on parle. Alors, on est allé chercher un spécialiste et on va commencer l'émission en se faisant expliquer que c'est ça, le feu.
Alors, je m'appelle Yannick Bergeron, je suis enseignant de chimie et vulgarisateur pour le magazine Les Débrouillards. C'est moi qui conçois les expériences du club. Alors, ce que c'est que le feu, c'est un objet fluide, lumineux, d'apparence changeante, qui pourrait se manifester lors de certaines réactions chimiques. Le feu occupe une région de l'espace sous un espace gazeux et ça s'effectue lors de réactions exothermiques bien précises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exothermique? Ça veut dire que c'est une réaction qui va dégager de l'énergie. Alors, le feu, c'est une réaction chimique qui dégage beaucoup, 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 beaucoup de chaleur. Et cette chaleur-là, elle se manifeste par quelque chose de visible qu'on appelle le feu. Et la température moyenne d'un feu est à peu près entre 700 et 1500 degrés Celsius. Mais ça a pris beaucoup de temps pour élaborer une théorie sur le feu. Donc, par exemple, je vais y arriver avec un petit peu d'histoire, si vous voulez bien. Le premier scientifique qui a voulu élaborer sur la question du feu s'appelait Aristote. Et ce gars-là avait comme idée que toute matière qui brûlait contenait l'élément feu, puisque lui, il y avait quatre éléments sur Terre. Il y avait l'eau, le feu, la terre et l'air, et tout ce qui constituait ou tout ce qui pouvait brûler contenait l'élément feu à l'intérieur. Donc ça, c'était sa théorie. C'est il y a 2300 ans. Ensuite de ça, il y a un autre scientifique qui s'appelait George Stahl qui, lui, a décidé de faire une théorie qui s'appelait la théorie du phlogistique. Qu'est-ce que c'est que le phlogistique? Ben, pour lui, toute matière qui brûlait, c'est parce qu'il y avait une quantité d'un fluide qui avait la possibilité de brûler sur n'importe quoi. Donc, pour lui, une matière qui brûlait super bien, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de phlogistique, donc 100% de phlogistique, qui lui permettait de faire ça. Mais en réalité, on s'est aperçu que c'était pas vraiment ça. Donc, il y a eu un dernier scientifique qui est venu arranger tout ça. Il s'appelait Antoine Laurent de Lavoisier. Et ce scientifique-là a réussi à faire une théorie sur le feu qui est extraordinaire. Il a réussi à prouver que pour avoir une combustion, donc pour générer une flamme, ça prenait de l'oxygène. Donc, c'est le père de la chimie moderne puisqu'il a introduit le mot « oxydation ». Donc, le feu, c'est une réaction chimique qui se produit lors d'une oxydation. Alors, une oxydation, qu'est-ce que c'est? Un mélange entre un matériau qui peut brûler et l'oxygène. Alors, si je coupe l'oxygène, il n'y a plus rien qui se produit. Donc, ça voudrait dire que le feu a besoin de trois choses pour survivre. La première chose, il a besoin d'un combustible. Donc, c'est une matière qui va lui permettre de brûler. La deuxième chose qu'il a besoin, c'est d'un comburant, l'oxygène, la petite découverte d'Antoine Laurent de Lavoisier. Et la dernière chose, c'est un point d'ignition, c'est-à-dire une source d'énergie qui va permettre au feu de brûler. Et si les trois éléments sont réunis ensemble, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une combustion. Et là, la flamme va jaillir. Mais le pire là-dedans, c'est que le feu, on peut avoir des combustions partielles et des combustions totales. C'est quoi la différence entre les deux? La quantité d'oxygène. Donc, je suis sûr que vous avez déjà vu une petite flamme brûler sur un chandelier. Eh bien, cette flamme-là, en réalité, c'est une flamme qui va utiliser très peu d'oxygène. C'est pour ça qu'elle est lumineuse, parce que l'énergie n'est pas utilisée pour pouvoir produire que de la chaleur, mais aussi de la lumière. Mais si on utilise un brûleur Bunsen, qui est une invention allemande pour faire une espèce de chalumeau dans laquelle on va faire rentrer beaucoup plus d'oxygène, on va obtenir une flamme bleue qui indique que la combustion est totale, ce qui veut dire qu'il va avoir beaucoup plus d'oxygène pour brûler le combustible et ça va faire une flamme bleue. Donc, cette flamme-là va être beaucoup plus énergétique, elle va être beaucoup plus vive et elle va presque pas émettre de lumière parce qu'elle va tout simplement utiliser son énergie pour produire de la chaleur. Mais dans la vie de tous les jours, pour rendre ça simple, il y a trois sortes de combustion. La combustion lente, la combustion vive, puis la combustion spontanée. C'est quoi la différence entre les trois? Très simple. La combustion lente, c'est lorsqu'il n'y a ni flamme, ni chaleur visible et perceptible. comme par exemple la fermentation, la putréfaction, l'art de se décomposer, et finalement la respiration cellulaire, ce que je suis en train de faire dans mon corps pour survivre. Les combustions vives, bien ça, vous les connaissez sûrement. Brûler du bois, par exemple, dans un feu de foyer, ou tout simplement de l'essence qui brûle. Ça, ce sont des combustions vives. Pourquoi? Parce qu'on voit de la lumière et on voit beaucoup de chaleur. On la ressent, en tout cas. Et les combustions spontanées, par exemple, un tas de charbon ou un silo de grain qui partent en pleine explosion ou en pleine combustion due à l'apport grandissant d'oxygène et dû au fait que leur propre énergie est capable d'engendrer une combustion. Bref, le feu a été quelque chose depuis très longtemps, de très mystérieux pour l'ensemble des scientifiques qui nous entourent. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait la lumière sur la question.
Dans l'histoire d'une ville, le feu est capable de tout changer, et Montréal n'y fait pas exception. Jean-François Leclerc, directeur du Centre d'histoire de Montréal, nous raconte un des grands feux montréalais et l'histoire d'une esclave condamnée, probablement à tort.
Si on parle de catastrophe dans une ville coloniale, là, donc française puis anglaise, il y avait les épidémies qui arrivaient de temps en temps, c'est sûr que l'eau était polluée, mais c'était vraiment les incendies. Parce que jusque au 18e siècle, peut-être vers au milieu du 18e, là, les années 1750, la plupart des maisons de la ville étaient en bois, parce que c'est un matériel économique. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en 1734, tout à coup, il y a un incendie qui va se déclarer dans la maison d'une riche veuve qui était la veuve de François Poulain de Francheville, qui était un des gestionnaires des forges du Saint-Maurice. Alors donc, l'incendie se déclare dans le grenier. Et comme ça pouvait arriver souvent, parce qu'il se passait souvent à l'époque, c'est que les gens utilisaient les restes de la cendre de bois pour faire de l'engrais, du savon et toutes sortes de choses. Donc, on conservait les cendres, et parfois au grenier, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Alors, tout à coup, l'incendie prend, et là, le feu va gagner des dizaines de maisons, et c'est une catastrophe épouvantable. L'Hôtel-Dieu, qui avait déjà été brûlé en 1721, reconstruit à grands frais, va lui aussi être complètement détruit. Alors, c'est une catastrophe, et à l'époque, il n'y a pas d'assurance. Alors, vous imaginez, le riche pauvre, là, vous êtes sur la paille. Si vous perdez votre coffre avec votre argent, vos biens, ben, c'est fini. Alors, ce qui va se passer, ben, c'est que la rumeur va s'emparer de l'affaire, et là, on cherche un coupable. Et à l'époque, il faut savoir que même si les gens le savent même maintenant très peu, qu'il y avait des esclaves en Nouvelle-France, des esclaves autochtones, qui étaient amenés comme des objets de commerce par d'autres nations autochtones, mais des esclaves noirs, là, qui transitaient par les colonies américaines autrement. Alors, Angélique, elle est d'origine portugaise. Probablement que c'était la fille, peut-être, d'une esclave africaine amenée au Portugal. Et elle va être vendue là, par plusieurs personnes. Elle se retrouve à Montréal. Et c'est donc la riche veuve qui va l'engager. Alors, tout à coup, on se met à dire, ben, c'est Angélique. Probablement, c'est Angélique qui a mis le feu pour se venger de sa patronne. Et on va arrêter Angélique. On va la soumettre à un procès. Mais à l'époque, les procès, il n'y a pas d'avocat. Hein? On ne peut pas se défendre. C'est vraiment une façon de faire qui n'est pas très ouverte, qui est plutôt fermée. Après 3 mois presque de procès, donc c'est énormément long, on n'a pas réussi encore à trouver un témoin qui va dire « oui, je l'ai vu mettre le feu ». Alors, tout le monde se dit « oui, c'est elle, j'ai entendu dire, mais c'est des ragots, des candidatons, il n'y a pas de témoin oculaire, c'est quand même important ». Et finalement, c'est la petite fille dont elle s'occupait, elle était comme la nounou d'une petite fille, qui était la fille d'un grand marchand qui a perdu sa maison. Alors, c'est elle qui va venir témoigner devant le juge en disant « J'ai vu Angélique monter au grenier avec une pelle remplie de cendres fumantes ou de braises. » Alors, imaginez, après 3 mois, la petite fille qui a entendu parler du drame, dont le père a perdu ses biens. Bon, on peut avoir quelques doutes sur la validité de ce jugement. Je pense qu'un juge, aujourd'hui, prendrait quelques précautions. Donc, est-ce qu'elle était coupable ou pas? Le problème, c'est qu'évidemment, on va la torturer. Ça se faisait, là, qu'elle soit noire, blanche, ou ça n'avait rien à voir. C'était la procédure habituelle, après certaines étapes. On va donc la torturer. Elle va évidemment avouer qu'elle a mis le feu. Et on, pour éviter le pire, bien, c'est-à-dire que normalement, un incendiaire, quelqu'un accusé d'incendie, était circulait dans la ville dans une charrette à déchets, hein, c'est un beau message qu'on passait, demandait pardon et se faisait brûler vif. Alors, ça faisait un petit peu mal, donc on va quand même lui accorder d'être étranglé, d'être pendu avant d'être brûlé vif, mais c'est quelque chose qui va se faire. On va la pendre dans un secteur qui n'a pas été brûlé. Et l'histoire va se finir comme ça, jusqu'à temps que, ben, récemment, on revoie un peu ce procès-là et qu'on se mette en, on mette en doute sa culpabilité.
En Inde, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de voir des bûchers funéraires. Ça ressemble à une empilade de bois, des chants, des prières durant des heures, la fumée qui se détache et surtout une odeur un peu envahissante de barbecue. J'ai trouvé la scène plus inspirante que je pensais à l'origine. J'ai même rapporté des souvenirs assez forts pour avoir envie d'être incinérée sur un bûcher à ciel ouvert, ma mort venue. Malheureusement, après une petite recherche, j'ai découvert que c'était impossible au Canada, c'est illégal. Donc, résolu, j'ai visité un crématorium pour voir où je me ferai enfourner quand ce sera mon tour. Pour essayer de mieux faire face à la mort, je voulais savoir comment ça se passe. Mélanie Trudel, gérante des services funéraires au crématorium Mont-Royal, et Frédéric Vincent, opérateur de four crématoire, m'ont expliqué en détail ma future crémation.
Les corps arrivent ici des hôpitaux des morts.
Exactement. Ils sont mis dans une salle réfrigérée, par la suite sont préparés. Lorsque la famille vient ici, c'est le dernier moment final, donc on leur permet de revoir la personne s'ils le désirent, et ensuite on procède à la crémation. Les gens généralement qui assistent au début de la crémation vont venir ici, et qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est un contenant, dans le fond, qui est sur un mont de charge, et ils vont voir la porte s'ouvrir. Et ensuite, la porte se referme, les gens sont demandés à se rendre, dans le fond, à l'autre étage.
OK.
Quand on est sur le point de mettre le corps dans le four, on pèse sur un piton qui donne une ordre au four de se mettre en mode crémation. Puis souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils pèsent sur le bouton pour se rassurer que c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Premièrement, les fours, le matin, sont partis automatiquement avec un système informatique qui déclenche le réchauffage initial du four à peu près 1h30, 2h avant le début de la première crémation. La première crémation peut prendre à peu près 2 heures parce que le four n'a pas atteint sa chaleur initiale. Okay. Donc, la première crémation est toujours plus longue que les autres, qui peuvent prendre à peu près 1h30.
Ça prend une chaleur très, très intense?
Oui, absolument. On brûle présentement ici. Si vous regardez, on brûle à 979 degrés Celsius.
Ah ouais. Donc, le bruit qu'on entend, c'est vraiment ça, c'est le bruit du...
C'est juste la ventilation.
La ventilation.
On entend, c'est pas le feu, c'est pas des crépitements, c'est juste la ventilation. C'est ça qu'on entend présentement.
Puis la crémation, ça se fait seulement avec le feu ou il faut ajouter des substances?
Non, absolument pas. Seulement avec du feu et de l'air. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve un coup que la crémation est terminée? C'est de 3 à 5 livres de calcium qui était dans les os. Parce que là, il y a de l'eau, de la chair. Et ce qu'on retrouve, c'est que le calcium
que
des os.
Que
le calcium des os. Okay. Quand on fait une poudre, on... des petites particules, mais on peut reconnaître quand même le bassin, le fémur, les hanches, on reconnaît les côtes, le crâne. On reconnaît certaines pièces qui sont quand même en petits morceaux.
Il y a un autre processus qui est dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est comme de racler pour que ça tombe dans la partie inférieure ici.
Donc ça, c'est une grande perche qu'on a ici. Et avec ça, on la met ça complètement dans le fond du four et on retire toutes les cendres pour les amener dans une panne. Donc, on les laisse de 15-20 minutes, le temps de refroidir un peu. Un coup qu'ils sont refroidis, il y a un système de ventilation en dessous de ça, on les retire, on les amène de l'autre côté, qui est un broyeur. Puis, ce broyeur-là, concasse les os en une fine poudre.
Est-ce qu'on voit de la fumée qui sort en haut?
Absolument pas. Absolument pas, c'est clair, clair, clair. On voit en haut de la cheminée un peu la chaleur.
OK.
Là, comme un certain mist. C'est tout ce qu'on voit, parce que c'est la chaleur, mais pas, un peu comme au-dessus d'un feu de foyer, là, quand on regarde en haut, là, on voit que...
Les gens nous demandent aussi, lorsqu'on ouvre la porte pour la première fois, est-ce qu'ils vont voir des flammes? Non, parce que ça peut être épeurant. Là. On les prépare, c'est juste que quand ils arrivent ici, je pense pas qu'ils sont assez préparés. T'es jamais préparé à voir quelqu'un pour une dernière fois qui va rentrer dans un four. Là.
Qu'est-ce que vous pensez qui a fait que les gens se tournent beaucoup plus vers la crémation maintenant? Est-ce qu'ils vous le disent, vous le mentionnez?
Je pense que c'est au niveau de la rapidité. Donc, ils veulent de plus en plus passer à autre chose, à moins vivre sûrement leur deuil. Malheureusement, avec notre société qui va vite aujourd'hui, les gens prennent moins le temps de commémorer leur personne décédée. Et il y a aussi un facteur d'argent. La crémation coûte moins cher que des funérailles traditionnelles.
Que d'acheter un cercueil.
Un terrain. Tandis que les cendres, on n'est pas réglementé au Québec pour l'instant. Donc, on peut repartir avec les cendres à la maison. Qu'est-ce que moi, je perçois ici? Souvent, les familles, c'est qu'ils rentrent ici puis ils veulent en sortir au plus vite pour continuer leur vie, passer à autre chose. Mais malheureusement, un deuil doit se faire. On doit traverser, on doit le passer au travers d'un deuil pour pouvoir le vivre. Là.
La crémation, c'est moins cher, c'est plus rapide, mais j'étais pas convaincue que j'avais fait le bon choix. D'ailleurs, on doit être plusieurs à se poser la question, puisque les Montréalais choisissent la crémation en majorité, à 60%. J'ai donc voulu rencontrer Gilles Labesca, doctorant en sociologie à l'UQAM, qui étudie la mort et la crémation depuis des années.
Quand on parle de crémation, on parle d'un côté la disposition en elle-même, puis d'un autre côté tout un imaginaire qui est lié à ça, toute une cérémonie. Le feu a un élément qui est très fort comme porteur de sens. Parfois, le feu est associé à de la violence pour les gens qui vont choisir l'enterrement en disant « les flammes, c'est violent, c'est les feux des enfers ». Et là, on a par exemple un passage où la personne choisit de se faire incinérer et pour elle, le fait de se faire manger par les vers est quelque chose d'extrêmement violent. La violence du feu, à cela, il y a la violence de la terre aussi. Relativement au feu et à l'imaginaire qui peut être associé au feu, il y a l'idée de putréfaction qui peut être détruite par le feu. En fait, il y a une balance purificatrice du feu dans l'imaginaire et celle-ci parfois peut s'associer à l'idée dans notre époque de vouloir garder un corps, une image du corps la plus esthétisée possible. Dans les arguments réguliers qu'on entend, c'est laisser la terre aux vivants. Au Royaume-Uni, il y avait des annonces publicitaires qui disaient pour tant de morts, la crémation permet d'économiser un terrain de football, un terrain de soccer, deux terrains de soccer, etc. Ah ouais. Donc c'était véritablement l'argument massif. Ici, ces arguments-là, dans les entrevues que j'ai faites, je les ai entendus.
Plus la conversation allait, plus je constatais que M. Labesca avait plus de questions que de réponses, et moi j'avais de plus en plus besoin de sens.
Je ne peux pas, moi, donner du sens a priori à une personne. Par contre, effectivement, et ça je pense que l'industrie funéraire est en voie d'accompagner de plus en plus les gens à construire leur propre sens. On peut être inspiré par une série télévisée. On peut être inspiré par un souvenir d'une cérémonie funéraire de son grand-père. Mm-hmm. On va composer ça. Et dans ce bricolage-là, ce que moi j'appelais finalement la mort à la carte, ça va être véritablement d'emprunter différentes modalités de sens et d'en construire un. Et ce qui amène les gens à choisir plus la crémation que l'inhumation, ça va être des raisons plus de facilité pragmatique. Je veux dire, avec la crémation, on peut splitter des cendres, on peut faire des diamants, on peut faire de la peinture, on peut les disperser à droite, à gauche. On peut ce que notre sens nous permet d'imaginer. C'est ça qui a tant d'attrait. C'est que finalement, on n'a pas un modèle, on n'a pas une normalisation de comportement associé à ça. Dans ces modalités de sens, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit une forme de spiritualité, de religion. On est en train de construire un micro-mythe en se racontant une justification. Le discours le plus rationnel que j'ai pu entendre était quand même empreint de vivant par-delà la mort. On ne peut pas arrêter notre pensée au moment de la mort. Bon, après, est-ce que c'est plus ou moins organisé cette pensée-là ? Non. On cherche perpétuellement à trouver un sens par-delà ce qui n'en a pas.
Alors, un autre feu notoire dans l'histoire de Montréal, c'est le fameux incendie du Parlement.
Donc, au moment, après les rébellions de 37-38, le Haut-Canada et le Bas-Canada sont unis de force. Ils doivent trouver un endroit pour le Parlement. On va aller d'une ville à l'autre, et Montréal est la capitale à partir de 1843. On se dit, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? Ah, tiens, Marché Sainte-Anne, merveilleux bâtiment. Donc, on prend ce bâtiment-là, on l'aménage, et ça devient le lieu du Parlement. Ce qui va se passer, c'est que les rébellions de 37-38, hein, le Parti patriote, majoritairement canadien-français, revendique d'avoir les pleins pouvoirs à l'Assemblée législative. Les Britanniques, le gouverneur, refusent. Alors, tout ça va finir par déborder dans la rue. La révolte, comme ça s'est passé dans beaucoup de pays d'Europe et d'Amérique aussi. Donc, la Grande-Bretagne intervient, l'armée, la répression, on brûle des villages. Bon, alors, presque 10 ans plus tard, on se dit, bon, ben maintenant, il faut peut-être tempérer les conséquences. On va essayer de réconcilier tout le monde. Puis une des façons, c'est de dédommager les gens qui ont perdu des biens, autant du côté des Britanniques que des Patriotes. Alors, une partie de la population montréalaise, les marchands, le peuple anglophone, anglo-britannique, va se dire, c'est une trahison. Le gouverneur qui autorise une loi qui dédommage les traîtres. Alors, ces traîtres qui ont voulu se détacher de la Grande-Bretagne, qui ont fait honte à la reine et tout ça, alors, ça ne fait pas plaisir. Puis, là, il y a une crise économique, alors ça va mal. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une manifestation qui est lancée au Champ de Mars, donc ce qui est maintenant le Champ de Mars derrière l'Hôtel de Ville. Et tout ce monde-là arrive en colère devant le Parlement, donc le marché Sainte-Anne. Et... il y en a un qui va défoncer les portes et on va utiliser l'éclairage au gaz qui existait depuis quelque temps pour mettre le feu au Parlement. Et il y a une bibliothèque, donc la bibliothèque, les archives vont brûler. Alors, c'est un événement. Les députés vont partir en courant, mais là, députés, c'est autant des anglophones, des francophones, le Haut-Canada, le Bas-Canada. Donc, c'est vraiment la foule en colère avec des marchands qui sont aussi en colère. Donc, c'est pas seulement le peuple des faubourgs. Et on va donc brûler le Parlement, qui est un événement quand même dans l'histoire du monde. Vous regarderez, là, il y en a pas tant que ça des parlements qui sont brûlés. Alors, notre beau Canada, c'est très pacifique. Il y a eu des événements comme ça dramatiques. Et la conséquence de ça, c'est que Montréal va perdre son statut de capitale. On se rend compte que c'est un petit peu risqué d'avoir des parlements dans une ville assez parfois tendue comme Montréal.
Dans le champ lexical vous revient tout de suite après ces quelques publicités.
En attendant, vous pouvez toujours aller devenir notre ami sur Facebook ou nous jaser ça sur Twitter au @danslechampl.
Si l'émission de cette semaine vous ennuie, allez sur notre site danslechamplexical.com et téléchargez une de nos émissions précédentes, potentiellement plus intéressantes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre balado.
Vous êtes toujours sur les ondes de CIBL 101,5 FM. On vous revient dans quelques instants.
Quelqu'un qui dirait que faire des feux d'artifice, c'est pas dangereux, il serait un peu à côté de la traque. Ça reste des explosifs, ça reste qu'il faut toujours se rappeler qu'on travaille avec des explosifs, puis c'est au moment où est-ce qu'on oublie que les accidents arrivent.
Celui que vous venez d'entendre, ben j'ai failli ne pas pouvoir le rencontrer. Mais grâce à la tempête qu'on a eue, oui, c'est rare qu'on va entendre ça, eh bien, le match de l'Impact dans lequel devaient faire les feux d'artifice a été reporté. J'ai donc pu rencontrer Julien Avon, artificier. Merci, tempête, car grâce à toi, dans le champ lexical, peut continuer à tourner autour du mot « feu ».
Dans le cas de l'Impact, on parle d'un produit de pyrotechnie intérieure. S'il y a plusieurs classes, en fait, de produits explosifs pour la pyrotechnie, fait que c'est plus de la pyrotechnie intérieure. La raison pour laquelle on l'utilise pour ce cas précis-là, c'est qu'on ne veut pas de retombées. On n'a pas le temps d'aller ramasser s'il y a des retombées. Les produits de feux d'artifice, grand déploiement, il y a plusieurs produits qui vont avoir soit des carcasses ou des espacements en mousse, mettons pour un chandelle romaine. Il y a plusieurs coups qui partent, mais il y a un espacement en chaque. Mais en fait, oui, il y a plusieurs classes de produits, puis le 725, la pyrotechnie intérieure, c'est fait, exemple, pour des shows de musique, où est-ce que tu vas avoir des flammes, ou des gerbes d'étincelles, ou des puffs de fumée ou des gros flashs lumineux ou des bangs sonores. C'est tous des produits qui se consomment automatiquement au moment où est-ce qu'ils sont allumés. Puis ça se consomme. Donc il n'y a pas de restant. Puis c'est ce qu'on voulait pour le match d'impact parce qu'il y a un match tout de suite après, un match de soccer professionnel. Fait qu'on a, puis vraiment, on a comme une minute et demie pour quitter. T'es vraiment remballer nos affaires puis quitter. Fait que tout ça, il y a une logistique aussi qui est derrière ça. Pour la préparation d'un feu, c'est sûr, ça dépend de la grosseur des feux. T'sais, des feux de la Saint-Jean-Baptiste, t'en as dans les petites municipalités comme t'en as. Ben exemple, la fête du Canada à Ottawa, c'est nous autres qui le faisons. Puis c'est un gros feu d'artifice. C'est 3 jours de montage. Un jour quasiment complet de démontage à plusieurs personnes. Là, concrètement, on arrive avec des camions, on déload des gros tubes de fibre de verre ou de HDPE, en tout cas, peu importe, c'est un matériau qui est testé, dans lequel on insère les bombes, et ça va servir de canon, de propulseur, dans le fond, à cause de la charge propulsive qui est à même la bombe, c'est ce qui est allumé par l'allumette électrique et par la mèche. Ça commence comme ça, dans le fond, ta bombe. Puis comme la bombe est dans le tube, elle cherche à sortir, donc la poudre propulsive, la charge propulsive cherche à propulser la bombe. Des semaines avant, il y a un concepteur qui est arrivé avec « bon, ben on a tant de budget, on arrive, on va faire un pyro musical ou un traditionnel », donc tu me demandais si c'est synchronisé sur de la musique ou si c'est traditionnel, normalement c'est les deux genres de feux d'artifice, là, grand déploiement, etc. et tout. Si c'est pyro musical, effectivement, on fait ça avec un système de mise à feu électronique à la fine pointe de la technologie qui peut être synchronisé là, vraiment aux dizaines de secondes près sur de la musique. Donc tout ça, c'est programmé d'avance. C'est le concepteur qui...
C'est pas un gars qui est là, qui tire sur une corde, là, puis qui allume avec son briquet.
Son lighter, ouais, exactement, avec sa cigarette, là. Non, ben tu peux faire de l'allumage à main tout le temps en étant sécuritaire et tout, mais... On est comme passé à un autre air, là. Sur du pyro musical, tu peux t'allumes pas ça à main. Là. Si tu veux moindrement un effet synchronisé et réussi, tu fais ça vraiment avec un système de mise à feu très technologique. Puis justement, c'est avec une programmation qui est déjà installée dans le système de mise à feu, puis qui correspond justement à la conception. Fait que tout ça, c'est un travail vraiment structuré avec une logistique assez serrée. Fait que tous les plans qui sortent de là, ben ça vient de la tête du concepteur qui est arrivé, bon, moi je veux cette bombe-là, elle explose à ce temps-là, mais là, la durée de montée va prendre 2,3 secondes pour ce produit-là, fait que là, faut que je le programme comme ça. Fait que tout ça au bout de la ligne, ben nous autres, on a le plan, là, on arrive sur le terrain, on installe les mortiers, on met les bombes dans les mortiers, on relie les bombes au système de mise à feu selon l'adresse que le concepteur a programmé. Puis au moment où est-ce que la musique part, le feu se déroule dans le fond comme dans la tête du concepteur. Là. Les produits, je veux dire, effectivement, il peut arriver des défauts de fabrication comme dans chaque industrie. Je repense à un projet qu'on a eu au Mexique qui était un petit peu plus funky, mais je veux dire, bon, en même temps, ça va avec les réglementations des endroits où on travaille. Là. Je veux dire, au Canada, c'est quand même assez safe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests qui sont faits.
Au Mexique?
Ben, c'était des produits qui étaient, disons, plus artisanales. C'est un produit explosif, puis ça, mettons que ça explose au sol, mettons, t'sais. Ben on s'arrange pour pas être dans une distance dangereuse, là. Fait que mettons que ça serait arrivé puis que on était juste à une bonne distance, fait que on n'aurait pas été blessé. Ben à la base, dans le fond, tout ce que ça prend, c'est d'aller passer une courte formation. C'est la DRE qui donne ça, là, la division de réglementation des explosifs. Puis c'est une formation qui dure une journée. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est vraiment à titre de sécurité, de bien comprendre les réglementations, puis tout ça. Mais je veux dire, ça reste encore pas un métier, mais une occupation ou une activité professionnelle très sporadique que tu apprends en travaillant. Vraiment, tu apprends sur le tas, là. Fait que tu vas suivre ta formation à la DRE, puis après ça, ben, t'envoies tes coordonnées à des compagnies pyro. qui font des feux d'artifice, on s'entend, là, la plupart travaillent beaucoup le 23-24 juin puis le 1er juillet. T'sais. À part de ça, ben, des petites fêtes de municipalité, puis des fois, c'est des chansons, des compétitions. Pis... Écoute, moi personnellement, j'aime les Dragon Eggs. Ça n'a rien de bien exotique. Il y en a dans quasiment tous les feux d'artifice à Ronde. C'est des feux que, dans le fond, c'est une bombe qui explose, qui répand plein d'étoiles. Puis ces étoiles-là, après, ils allument plein d'autres étoiles en même temps. Puis ça fait comme une grosse ouate, un gros nuage avec un petit peu de crackling. Là, de, ouais. C'est... Fait que, tu sais, moi, ça, je trouve ça doux, je trouve ça bel effet. Mais, tu sais, j'aime aussi tout le côté des séquences rapides maintenant qu'on est capable d'accomplir avec les systèmes de mise à feu, justement, qui sont hyper précis. Mm. Ou est-ce que, bon, c'est surtout au sol, mettons, là, tu sais, ce qu'on appelle des chases, là, où est-ce qu'on va partir de gauche à droite, là, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis, des fois, tu croises, puis là, tu recroises. Puis, tu sais, dans le fond, tu vas vraiment jouer avec la perception que t'as. C'est pas nécessairement... C'est dur de concevoir la séquence qui va te donner cet effet-là. Puis une fois que tu l'as, tu fais wow, on dirait que ton cerveau n'arrive pas à saisir exactement comment c'est arrivé là, mais ça fait un effet incroyable. Mm. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais évidemment, les grosses énormes bombes qui explosent, toi, puis tu te dis wow, l'ouverture qui est complètement incroyable, c'est sûr, c'est toujours impressionnant avec le kick puis toute la vibration qui te rentre dedans. Là. C'est des chimistes qui conçoivent les bombes, puis. Les effets qui en découlent. Puis même ça continue à évoluer énormément. Il y a des bombes japonaises complètement folles. Tu peux voir ça sur YouTube, des Ghost Shells, je pense que ça s'appelle. Puis le délai entre les étoiles fait que quand la bombe, elle ouvre, la bombe sphérique, elle ouvre donc en sphère, puis les étoiles s'illuminent, mais exemple, d'un côté jusqu'à l'autre côté. Ou de l'avant vers l'arrière. Mais tout ça en 3D, donc dans le fond, comment ça a été fait, c'est que les étoiles ont été placées une à une avec un délai, si tu veux, plus long, de gauche à droite. Mais ça, de toute façon, on s'en fout quand elle ouvre dans les airs, c'est juste qu'elle va partir d'un bord vers l'autre, de l'arrière vers l'avant. Ou... Ah ouais. Mais ça donne un effet complètement fou. Fait que ça, il y a encore de l'évolution aussi qui continue, pas juste dans la technologie de mise à feu, mais dans les effets qui sont développés.
Prendre une chance, une autre pour la...
Le feu est capable de changer l'histoire des villes, y compris celle de Montréal. Jean-François Leclerc, directeur du Centre d'histoire de Montréal, nous raconte le grand incendie de 1852.
On peut dire que c'est l'incendie le plus terrible, même à l'échelle de l'Amérique du Nord. Il y a eu des grands incendies à Chicago, à la ville. C'était un peu normal, en guillemets. Là. Ça arrivait fréquemment à cause des constructions de bois. Alors, on est en juillet 1852. C'est un mois après qu'il y a eu une petite alerte, il y a eu un petit incendie un peu plus circonscrit en juin 1852. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en juillet, la ville a décidé de nettoyer l'aqueduc municipal qui, en juillet, il faisait genre 37 degrés centigrades au moment de l'incendie. Alors, c'est sec, il fait chaud et tout ça. Et il va y avoir deux foyers d'incendie qui vont être allumés. Un qui est par mégarde dans l'atelier d'un menuisier, probablement pour des raisons, la même chose qu'en 1734, des cendres laissées dans un grenier. Et le vent va prendre là-dedans, va distribuer les braises un peu partout. Alors, on va se retrouver avec une catastrophe épouvantable parce qu'il y a 1200 maisons qui vont être détruites. Alors, c'est ce qu'on appelle le Faubourg Saint-Laurent. Donc, on peut penser des deux côtés de Saint-Laurent, là, à partir du Vieux-Montréal, en montant pratiquement jusqu'à Sherbrooke, peut-être un petit peu plus bas, 1200 maisons. Puis, il y a 11 000 personnes qui vont être sur le pavé, qui vont être obligées de camper pendant des semaines. Alors, ça, c'est vraiment, quand on voit les catastrophes mondiales là, à la télé, sur Internet, tout ça, on peut dire que c'était une des grandes catastrophes, surtout que c'est une proportion quand même importante de la population de l'époque. La conséquence de ça, c'est que la ville va prendre ses responsabilités. Premièrement, les compagnies d'assurance qui commencent à exister depuis quelque temps vont dire, bien, écoutez, là, si on est pour avoir un incendie majeur à tous les 15 ans, là, on ne pourra plus assurer personne. Alors, donc, la ville va intégrer dans ses services des meilleurs aqueducs, services de pompiers qui vont être créés dans les années 1860, la distribution de l'eau aussi qui va se faire. Donc, ça va avoir des conséquences finalement positives. Et ça va obliger Montréal, la ville de Montréal, à vraiment structurer un peu mieux ses services, autant pour le combat des incendies que la qualité de l'eau. Alors, heureusement, c'est le dernier grand incendie qu'on va voir. Il va y en avoir d'autres ensuite dans certains secteurs, tout près du centre d'histoire dans les années 1900. Si on s'en va dans les années, fin des années 60, même au moment d'une grève de pompiers, il va y avoir certains secteurs du centre-sud, de Schlager-Maisonneuve, qui vont brûler. Donc, c'est sûr qu'il y en a eu par la suite, mais des incendies qui ont eu cette importance, non, parce qu'entre autres, on va aussi demander, on va interdire les maisons en bois. On va obliger les gens à avoir des parements de briques ou de pierre. Donc, les fameux duplex qu'on a aujourd'hui, bien, c'est ça. En fond, la brique, c'est pas seulement décoratif, c'est pour protéger les maisons de la propagation des incendies.
Hey Nadine.
Quoi, Mathieu?
Il est 11 heures. Il y a un feu.
Ouais.
Sais-tu qu'est-ce qui manque?
Je sais pas, non.
Une histoire autour d'un feu.
Ah, ben ça tombe bien parce que... pas pire bonne là-dedans.
OK. Ce qu'on va faire, on va pitcher une espèce de petite poudre dans le feu pour faire... Ça a l'air que c'est important de faire ça.
C'est bon.
Il va y avoir un petit générique.
OK.
Puis tu pourras raconter ton histoire.
Excellent. C'est l'histoire de moi à 14-15 ans à peu près.
Puis t'es morte.
Pas encore. À ce moment-là, on décidait d'aller faire de la randonnée. Puis on a décidé aussi de s'arrêter au pied de la montagne noire. Juste au pied de la montagne noire, au pied en bas, là, juste en bas de la montagne noire, pour faire un feu. Un feu sur lequel on allait faire cuire des chops de porc.
Je pense que t'allais dire brûler des sorcières.
Non, ça c'est plus tard.
Plus tard, okay.
On mangeait des chops de porc, puis c'est à ce moment-là que le moniteur, il nous a dit, ce que vous allez voir sur le top de la montagne noire, ça se peut que vous en reveniez jamais. Puis là, j'étais pas sûr pantoute de son temps de verbe. Mais je l'ai pas astiné parce que c'était le moniteur, puis il fallait que je le suive jusqu'au top de la montagne noire pour pouvoir en revenir. On était prêts à monter 3 heures et demie de temps la montagne noire. Fait qu'on marche, puis on marche. Crunch, crunch. Puis on monte, puis on monte. Là, on passe un petit ruisseau, on s'abreuve un peu. C'était en 99. Dans ce temps-là, la nature n'était pas aussi polluée que maintenant. Fait qu'on continue, on continue là. Puis là, bang! On tombe sur le crash d'avion. Parce que, bang! Le crash d'avion, il est réel. Le 19 octobre 1943... L'armée canadienne a complètement perdu de la carte. Le bombardier libérateur B-24, c'est ça, B-24. Où était-il rendu? Nous ne le savions pas. Moi, je ne savais pas en 1943 parce que je n'étais pas encore né. Mais toute la population et surtout l'armée canadienne ne savait plus où était le libérateur B-24. Il cherche, puis il cherchait encore, puis bang! Deux ans et demi plus tard, ils ont fini par le trouver. Qu'est-ce qu'il faisait là, le libérateur B-24? Il n'y avait pas d'affaire là, le libérateur B-24, il s'était perdu en forêt. Le libérateur B-24, bang! Fait que nous, quand on est tombé dessus pendant la randonnée, là, on a été aussi surpris que l'armée canadienne qui l'a retrouvé le 26 juin 1946. Là. Bang! On s'y attendait pas, puis ça a vraiment été un choc. Bang! On continue notre ascension. On continue. Crunch, crunch, crunch. Les pieds dans les feuilles. Crunch, crunch, crunch. Puis là, on arrive au cimetière. Ça, c'est un cimetière de croix blanche qu'ils ont fait au top, bien quasiment au top de la montagne noire, pour commémoration, là. La commémoration des 24 militaires morts pendant le crash. Hey, c'était vrai, là! C'était vrai de vrai, là. Je les ai vus de mes yeux vus, là. Tout était vrai. Fait que là, on continue notre ascension. Crunch, 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 crunch. Puis là, bang! On arrive sur le top de la montagne noire. Le top de la montagne noire, il n'y a rien d'autre à dire que c'est un top. Puis il n'y a pas grand-chose d'autre. Fait qu'il est rendu 9h30, 10h le soir. On monte nos tentes. Clogne, 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 clogne. Ça, c'est un genre de faux marteau qui fesse sur un piqué de tente, là, mais ça fait clogne, là, mettons. Fait que ça, c'est quand tu montes une tente, ça fait clogne. Et clogne, et clogne, et clogne. Zzzz, zzzz. le zapper, il fonctionnait bien. Fait que là, les moniteurs nous demandent d'aller se rassembler autour du deuxième feu. On avait la chienne! Il y avait eu un crash d'avion sur cette montagne-là, puis on venait de l'apercevoir! On s'est assis autour du feu, ils ont distribué des guimauves, puis ils ont commencé à parler de la légende du crash de la montagne noire. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, les 24 militaires, tout éparpillés dans cette forêt-là? Parce que le monde ne savent pas, là. C'est qui t'a un crash d'avion, là? Les corps, ils restent à côté. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les 24 corps, ils ont été retrouvés tout éparpillés dans la forêt, dont un loin. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ce corps-là? Une autre affaire qui est arrivée, c'est qu'ils ont retrouvé une chaussure à talons hauts rouge dans cet avion, d'un débris. Qu'est-ce qu'une femme faisait dans cet avion-là? Hein? La salope!
Oh! Ben non! Pas là.
Non. Puis là, une autre affaire qui a été découverte, c'est que... Bang! Ah! J'ai su... Ce soir-là, en 99, autour d'un feu, avec deux moniteurs, pis sept autres jeunes, que bang!
Ah!
La légende veut qu'il y avait deux SS, des SS, là, captifs dans cet avion-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? On le saura jamais. Mais il y avait deux SS dans cet avion-là. Puis, bang!
Ah!
On sait que les SS, là, sont vraiment faites fort. Le SS, il serait défait de ses liens dans l'avion. Il aurait réussi à détourner l'avion après avoir tué tout le monde dans cet avion-là. Puis, bang!
Ah!
Il aurait crashé sa montagne noire. Mais le SS, qui s'appelle Hans Gert, aurait survécu à ce crash-là. Et depuis ce temps-là, Hans Gert se fait passer pour un militaire avec les papiers du militaire qui a volé après le crash et il se promène à Saint-Donat. J'ai pas dormi de la nuit. Et c'était l'histoire de la légende du crash de l'avion de la montagne noire.
Pourquoi ça s'appelle pas la légende de Hans Gert?
Parce que Hans Gert, c'est difficile à dire.
T'es-tu morte?
Pas encore.
C'est pas si épeurant que ça, d'abord.
Bang!
Ah!
C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. Merci à Yannick Bergeron, enseignant en chimie, qui a démystifié le feu pour nous. Merci à Julien Avon, pyrotechnicien, et Nadine Mathurin, qui nous a fait un beau conte d'autour du feu. L'équipe en feu pour cette émission, Sarah Champagne, Christiane Campagna, Caroline Larocalard, Mathieu Charlebois et Joanie Larue. Revenez à la même heure sur les ondes de CIBL la semaine prochaine, parce qu'on va tourner autour du mot « onde ». Puis on va être sur des ondes malades.